Communication connectée avec bébé de Nathalie Escoffier.
Alors bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue et merci de me donner l'occasion de vous parler de la communication connectée. Merci aussi à toute l'équipe de Prime Vert qui nous donne cet espace pour pouvoir discuter de cette technique. Ce que je vous propose, c'est que... Est-ce que vous entendez quand même quand il y a les... Oui, c'est bon ? Ok. Alors moi, je suis un peu impressionnée parce que j'ai un gros spot en face de moi que jusqu'à maintenant, quand j'ai parlé de la communication connectée, c'est avec des petits groupes d'une vingtaine de personnes sans micro et dans des salles un peu plus cosy. Donc voilà, il faut que je fasse passer ma petite appréhension. Et j'ai pas trop l'habitude non plus du micro, donc n'hésitez pas à me faire signe s'il y a des moments où vous entendez pas. Je vous vois pas trop parce que j'ai le spot, mais si vous faites des grands signes, je m'adapterai. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la communication connectée, ce qu'est la communication connectée, son histoire, la technique, quand et comment l'utiliser, avec qui. Et puis après, dans un deuxième temps, il y aura un temps de questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez encore après mon temps d'intervention. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des gens qui connaissent bien et qui pratiquent la communication connectée ? Super. Donc, il n'y a pas de problème aussi pour intervenir s'il y a besoin de rajouter des choses. Et pour les autres personnes, c'est une découverte ? Ok. D'abord, qu'est-ce que la communication connectée ? Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que les bébés, c'était des simples tubes digestifs qui avaient essentiellement besoin de manger, d'être changés, d'être propres et de dormir. Et il y a une cinquantaine d'années, en grande partie grâce à Françoise Dolto, on a compris que les enfants étaient une personne à part entière et on s'est mis à parler aux bébés. Et ça a été une grande révolution. Maintenant, ça étonne plus personne qu'on parle avec des petits-enfants et qu'on les considère comme des personnes. Mais ça a été quand même une grande révolution parce qu'avant ça, c'était pas une idée si courante que ça. Ben, la communication connectée, c'est peut-être la petite révolution actuelle qui est que non seulement les bébés peuvent nous comprendre et on peut parler aux bébés, mais on peut aussi leur donner la parole et les entendre. Donc la communication connectée, c'est vraiment ça. C'est donner un temps de parole au bébé et à ce qu'il a vraiment à dire, lui donner la possibilité de vraiment exprimer quelque chose de son monde intérieur, et ça avant qu'il ait la parole et qu'il puisse l'exprimer par des mots. D'accord ? Alors pour vous l'expliquer le plus simplement possible, je pense que c'est intéressant de reprendre la petite histoire, comment la communication connectée a été découverte et comment elle a été mise au point. Donc c'est Hélène Gérin et Frédéric Laloux qui sont deux personnes qui vivent en Belgique et qui étaient juste tout simplement très très persuadés que les enfants avaient une grande vie intérieure. Et au moment de la naissance de leur premier enfant, ils étaient voilà juste ouverts à ça, ouverts au fait que leur bébé, quand il était en train de pleurer ou même à tout instant de la journée, avait sûrement des choses très profondes à leur dire. Et Hélène Gérin était doula et kinésiologue. Doula, c'est pas encore très très répandu en France, mais en Belgique, c'est bien installé. C'est les personnes qui accompagnent la grossesse et la naissance, la toute petite enfance. Et donc, en tant que doula et kinésiologue, elle avait vraiment très souvent l'occasion d'aider des familles avec des très jeunes bébés. Et dans ces séances thérapeutiques, elle donnait la parole aux enfants par l'intermédiaire notamment de la kinésiologie. Voilà, donc ça c'était son côté professionnel. Et puis quand elle s'est retrouvée avec son petit bébé, un soir où elle avait son bébé dans les bras et puis qu'il était en train de pleurer et qu'elle n'arrivait pas à trouver les raisons de ses pleurs, elle s'est dit, elle avait son enfant comme ça dans les bras, puis elle s'est dit, ben quand même, s'il pouvait avoir la parole, si je pouvais juste entendre ce qu'il est en train d'exprimer, ça serait tellement plus simple pour moi d'agir. Si je pouvais connaître son besoin, peut-être que je pourrais y répondre ou peut-être que je pourrais pas y répondre, mais en tout cas, plutôt que d'être là en train de tâtonner, de me dire est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a tout simplement besoin de pleurer, s'il pouvait lui-même l'exprimer, ça serait tellement plus simple. Et elle en était là de ses pensées, puis tout d'un coup, elle s'est dit, bah, c'est quand même ce que je fais dans mes séances avec les parents et les enfants qui viennent me voir d'une manière thérapeutique, bien sûr. Mais peut-être si j'utilisais les outils que j'ai pour moi dans mes séances et que tout simplement, là, dans le cadre familial, sans y mettre du tout de notion thérapeutique, j'essayais de donner la parole à mon bébé. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle l'a fait par le test musculaire, qui est l'outil du kinésiologue. Elle l'a fait par un auto-test, c'est-à-dire qu'elle s'est testée elle-même. Elle n'a pas testé son bébé. C'est ce qu'on fait souvent en kinésiologie quand on a des enfants en très bas âge. L'outil du kinésiologue, c'est le test musculaire qu'on fait en général sur la personne. Mais quand on a des enfants en très bas âge, au lieu de tester sur le bébé, ce qui est compliqué, souvent on teste ce qu'on appelle en transfert sur un des parents. Ben, elle a fait en transfert sur elle-même. Donc elle s'est fait un auto-test et elle a dialogué avec son bébé. Alors comment elle a dialogué ? Elle a dialogué en posant juste des questions fermées, des questions qui permettent d'avoir un oui ou un non. Et avec le test musculaire, on a une réponse différente en fonction de si la réponse est un oui ou si la réponse est un non. Et puis comme ça, en dialoguant, elle a mis des mots sur ce que éprouvait son petit garçon. Et juste après avoir juste mis des mots dessus, le petit garçon s'est apaisé, s'est endormi. Alors elle s'est dit, oh, super, peut-être que c'est juste une coïncidence, peut-être que de toute façon il devait s'endormir à ce moment-là. Donc voilà, elle a dit bon, ben, c'est intéressant. Par contre, ça l'a un petit peu titillé, sa curiosité. Et du coup, elle en a parlé déjà à Frédéric, le papa, qui a été aussi très intéressé par ce qui se passait. Et puis ils ont expérimenté plein de fois comme ça avec leur petit bonhomme. Des fois quand il pleurait, puis des fois pour d'autres situations, de rentrer en communication et de lui donner la parole, de lui donner vraiment, qu'il puisse exprimer vraiment ce qu'il était en train de ressentir à ce moment-là. Et toutes ces expériences à chaque fois accumulées, ben, petit à petit, se sont dit, ça nous change tellement notre vie quotidienne, il y a tellement de fois où ça dénoue la situation, il y a tellement de fois où on le voit s'apaiser d'un coup, que ça met tellement une fluidité dans notre vie de famille, que c'est un peu dommage de le garder pour nous parce qu'on n'est pas trop sûr, parce qu'on se demande un peu ce qui se passe. Donc ils ont commencé à en parler comme ça à des amis autour d'eux qui du coup ont utilisé aussi cette technique avec leurs enfants, leur ont donné des témoignages de ce qui se passait pour eux avec leurs enfants. Et ils se sont aperçus que vraiment, à force, ils ont balayé leurs doutes, le fait que ça soit du hasard. Ça apporte tellement... Moi, ça me gêne. Ça apporte tellement dans le quotidien de pouvoir donner ce temps de parole à l'enfant que du coup, ils ont envie de le partager avec tout le monde. Donc vraiment, leur objectif, c'est d'offrir cette méthode à tous ceux qui ont envie de l'utiliser. C'est vraiment pas de convaincre. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais pas du tout essayer de vous convaincre non plus. C'est vraiment juste de dire voilà ce qui existe et si ça vous intéresse, ben utilisez-le, prenez-le et appropriez-le vous. Voilà. Vraiment, leur objectif, c'est que tous les parents qui auraient envie puissent utiliser. Et puis, si des parents n'ont pas envie, il y a pas de problème. Mais tous les parents qui ont envie puissent utiliser. Donc voilà. En fait, ils ont utilisé. Tout ce qu'ils connaissaient, ils étaient formés en communication non violente, ils étaient formés en écoute active, ils étaient formés du coup en kinésiologie, et ils ont mis tout ça bout à bout, et ils ont petit à petit cherché à étoffer pour avoir des conversations de plus en plus bien construites, avant de pouvoir l'offrir aux autres. Alors pour l'offrir aux autres, ils ont écrit un livre qui s'appelle « J'ai tant de choses à dire ». Donc c'est un livre qui est édité aux éditions Le Souffle d'Or et dans laquelle ils expliquent leur histoire et ils expliquent vraiment toute la technique. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce livre-là, on peut se mettre à pratiquer la communication connectée en autodidacte. D'accord ? Il y a vraiment, tout est vraiment expliqué, les conditions éthiques pour une bonne communication, les façons de poser des questions, tout est vraiment très pratico-pratique dans ce livre et c'est vraiment leur intention, c'est que tout le monde puisse se l'approprier et l'utiliser en autonomie. Alors, comment ça se passe exactement cette communication ? En fait, c'est le principe d'une communication avec des questions fermées. Et les réponses vont être en mode binaire, ça veut dire que ça va être juste des réponses oui, non. On va dire que c'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec un ami et en arrivant ce soir-là, vous apercevez que votre ami est complètement aphone. Donc vous avez peut-être dans un premier temps pensé que ben, du coup la soirée est foutue, on va remettre la soirée à plus tard. Et puis là, votre ami vous dit, donc c'est un non. Je vais traduire quand même ce que je fais comme geste parce que la conférence est enregistrée. Donc pour voilà. Donc il vous fait non de la tête. Donc du coup vous allez dire ah bon bah tu veux que je reste et là il vous fait oui de la tête et vous allez commencer à poser des questions comme ça. Il y a que le oui non que votre ami va pouvoir vous répondre. Mais finalement vous allez pouvoir rentrer vraiment dans une communication avec lui. C'est vraiment le même système. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir un code oui non et poser des questions qui vont permettre comme ça de cheminer et de trouver. C'est un petit peu comme un jeu de piste. C'est pas le ni oui ni non. C'est le que oui que non. Et c'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà joué devine à quel animal je pense, par exemple. Et du coup, ben, on va dire, par exemple, est-ce que c'est un mammifère ou est-ce qu'il vit dans l'eau? Donc, au début, on va faire des grandes questions générales pour petit à petit être guidé et trouver dans quelle piste le bébé veut nous emmener. D'accord? Donc, il faut juste avoir un code oui, non pour pouvoir communiquer. Déjà, la première chose. Donc, ce code oui-non, c'est les outils, on va dire, de la communication connectée. Donc, ces outils qui sont proposés par Hélène et Frédéric, c'est le test musculaire et aussi les baguettes de sourcier. Donc, les baguettes de sourcier, c'est quelque chose qu'ils ont pris à la géobiologie. C'est des baguettes qui sont comme ça. Je vais avoir du mal à vous montrer tout en tenant le micro, mais en fait, on a deux baguettes, donc une dans chaque main. C'est juste des baguettes en fer, hein, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais en les prenant dans la main comme ça et en se centrant, on va pouvoir avoir une réponse différente des baguettes en fonction de si la réponse à la question est un oui ou un non. D'accord ? Mais en fait, il faut juste avoir une réponse de oui, non, c'est tout. Donc, ça peut être n'importe quel autre outil. Il y a des gens qui maintenant utilisent par exemple le pendule parce qu'ils sont à l'aise avec le pendule. Mais ça peut être aussi un ressenti corporel. Si vous voulez, je vais vous guider dans ce ressenti corporel juste pour que vous ayez du coup un code oui-non juste après la conférence et éventuellement si vous avez envie d'explorer un petit peu, que vous ayez un petit outil. Alors, si vous êtes d'accord, je veux bien que vous vous leviez. Que vous vous ancrez vraiment bien dans le sol. Que vous vous posiez vraiment dans le temps présent. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de prendre conscience de votre respiration. Donc, écoutez juste la respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort, sans accentuer la respiration, juste pour être là présent. Et une fois que, du coup, vous avez un petit peu fait le vide sur ce qui se passe dans votre tête et que vous êtes revenu juste à vos ressentis du corps, vous allez mettre dans votre tête quelque chose de très positif. Une situation dans laquelle vous sentez vraiment, vraiment très, très bien, très à l'aise. Et observez ce qui se passe dans vous, au niveau de votre respiration, au niveau des mouvements de votre corps. Ok ? On met cette situation positive comme dans un petit nuage, là, pas très loin de nous, mais on la fait sortir. Et maintenant, vous allez prendre une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas du tout à l'aise. Quelque chose que vous aimez pas faire, quelque chose qui vous met, qui vous est inconfortable. Et observez maintenant ce qui se passe. Ok. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont senti une différence dans ce qui se passait dans leur corps quand la situation était positive ou quand la situation était compliquée? On l'a fait un peu très rapidement, hein, donc c'est pas évident d'être à l'aise avec sentir une différence. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont pu sentir une différence? Oui. Ça vous dérange pas de nous dire deux, trois petites choses sur
J'ai appris un petit peu ça avec la CNV, la communication non violente, et Tipeee en tout particulier. Et donc, quand je suis bien, ben mes épaules, ma cage thoracique s'ouvre, je respire amplement dans tout le corps, je sens ma respiration qui circule. Ben, voilà. Donc mes épaules s'ouvrent bien, je sens ma cage thoracique bien ouverte et ma respiration est très ample et j'ai même l'image de tout est ouvert là, tout circule très bien de bas en haut comme au tai chi ou au qigong, pareil. Alors que quand ça va pas, alors là je me sens les épaules qui baissent. Je me sens serrée comme s'il y avait un nœud là. Je respire moins. Ma mâchoire est plus crispée. Alors que quand je suis bien, ma mâchoire est plus souriante.
Oui, merci. Donc, en fait, c'est vraiment les sensations corporelles qui donnent une indication. Là, pour moi, pour moi, les choses se passent de manière claire, fluide et détendue, ou là, plutôt, c'est quelque chose de tendu. D'accord? On va refaire cette expérience et vous allez juste être attentif au fait que votre corps, en fonction de la pensée que vous mettez dans votre tête, va avoir plutôt tendance à être attiré vers l'avant ou attiré vers l'arrière. On va juste mettre son attention là-dessus. Donc on va refaire comme tout à l'heure, juste 2-3 respirations pour un petit peu essayer de se centrer, même si on n'est pas dans un univers bien posé là. Et la situation positive de tout à l'heure, vous pouvez reprendre la même. Vraiment quelque chose dans lequel vous êtes très confortable. Et laissez sentir au niveau du corps si vous sentez que vous êtes plutôt un petit peu attiré vers l'avant ou plutôt un petit peu attiré vers l'arrière. Et quand vous l'avez senti, vous prenez la situation négative de tout à l'heure. Et pareil, vous observez, est-ce que votre corps est attiré plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière? Et vous pouvez le refaire 2-3 fois pour voir, hein, ou une autre situation positive, une autre situation négative, et pouvoir vraiment sentir ce qui se passe au niveau de votre corps. Est-ce que vous avez pu sentir une différence? Est-ce que quelques-uns ont pu sentir une différence? Ce n'est pas évident pour tout le monde, hein, mais oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on pense à la situation positive, attiré vers l'avant, est-ce que pour d'autres personnes, c'est ça aussi? Quand on pense à ce qui est positif, on est attiré vers l'avant ou vers le haut, d'accord? Et quand on pense à quelque chose de négatif,
À peine vers l'arrière.
Un petit peu vers l'arrière. Alors, on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de notre corps quand on met quelque chose, une pensée dans notre esprit. Donc, du coup, des fois, on n'a pas rapidement cette information. Mais si vous vous entraînez, entre guillemets, vous allez voir que vraiment, on a très rapidement cette information qui est quand on pense à quelque chose de positif, en général, on est attiré vers l'avant puisqu'on va vers le positif. Et quand on pense à quelque chose de négatif, en général, on est attiré vers l'arrière parce qu'on est freiné, on veut pas y aller quelque part. Notre corps nous dit, énergétiquement, notre corps nous dit non, ça c'est pas quelque chose qui est bon pour toi. D'accord ? Une fois qu'on a bien ce petit balancement corporel, on va dire que c'est comme si c'était un peu notre pendule corporelle, on peut l'utiliser aussi pour faire le oui-non. C'est-à-dire que si moi, je pense à quelque chose de positif, mon corps va être attiré vers l'avant. Si maintenant je pense à quelque chose de négatif, mon corps va être attiré vers l'arrière. Et maintenant que j'ai ça, je peux dire aussi oui. Un oui, c'est quelque chose de positif. Donc, mon corps va être attiré vers l'avant. Et si je dis non, mon non, c'est quelque chose de négatif. Mon corps va être attiré vers l'arrière. Donc, indépendamment de... c'est pas moi qui décide que mon corps... hein, c'est vraiment... je suis juste à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Et j'ai cette information. C'est un peu comme un pendule corporel. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'assez simple à avoir. Et du coup, vous pouvez l'expérimenter chez vous tranquillement et vous apercevoir que vous avez déjà cette réponse oui-non. Et du coup, on pourrait faire la communication connectée en utilisant notre corps comme réponse en oui et un non, puisque ce qui nous intéresse dans la communication connectée, c'est d'avoir ce code-là, oui-non. D'accord ? Ça donne après des conversations comme, je vais vous lire un petit extrait. Donc, je vous ai dit, hein, c'est comme une petite chasse au trésor pour aller à la découverte de ce que l'enfant a à nous dire ou à comprendre ou un besoin qu'il peut avoir. Donc là, il y a une petite conversation. Le papa demande « Est-ce que tu as besoin de dire ou d'exprimer quelque chose ?» Et il obtient, donc s'il était avec le pendule corporel comme on a fait, d'accord ? Quand il pose la question « Est-ce que tu as besoin de dire ou d'exprimer quelque chose ?» il obtient un « oui ». Donc ça, il obtient le « oui » par l'outil hein, qui nous donne le « oui-non ». « Y a-t-il des raisons d'en douter ?» Et là, il obtient un « non ». Toujours, on essaye de bien confirmer qu'on n'ait pas eu un « oui » comme ça, qui soit pas très clair. « Dire ou exprimer quelque chose à moi, ton papa ?» Et là, il obtient un « non ». « À Hélène, ta maman ?» Là, il obtient un « oui ». « À quelqu'un d'autre aussi ?» Et là, il obtient un « non ». Donc, il va reformuler. « Ok, ce que j'ai compris, c'est que tu as besoin d'exprimer quelque chose à ta maman. » Et il obtient à nouveau un « oui ». « Est-ce que tu veux lui dire comment tu te sens ?» Et il obtient un « oui ». En général, ces temps-ci, il obtient un « non ». « Comment tu te sens ce soir en particulier ?» Oui. « Est-ce que c'est une émotion confortable ?» Oui. Est-ce que c'est une émotion inconfortable? Non. Il y a toujours cette petite série de questions positives et négatives pour être bien sûr. J'ai perdu la ligne. Est-ce que c'est de la joie? Non. Est-ce que c'est du bonheur? Non. De l'amour? Oui. Tu ressens de l'amour pour ta maman, c'est ça? Oui. Tu ressens trop d'amour pour ta maman? Non. Tu ressens un trop plein d'amour pour ta maman et il faut que ça sorte? Oui. Tu veux que je le lui dise? Oui. Est-ce que c'est exactement ça? Tu veux que je dise à ta maman que tu ressens de l'amour pour elle, un trop plein d'amour? Oui. Est-ce qu'il faut préciser autre chose? Non. Alors ça, c'était suite à une conversation avec le bébé qui exprimait un inconfort, qui on voyait qu'il était gêné par quelque chose. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit quand on donne la parole aux enfants que quand ils sont dans l'inconfort ou quand ils expriment des pleurs, c'est pas toujours pour dire quelque chose d'inconfortable, en fait. C'est aussi c'est le seul moyen qu'ils ont pour communiquer. Donc même, par exemple, il ressent un trop plein d'amour, il a besoin d'exprimer ce trop plein d'amour, ben, sa façon de l'exprimer, ça va être en pleurant. Et ça, c'est une découverte vraiment qu'Hélène et Frédéric ont fait, parce qu'au départ, ils pensaient toujours trouver quelque chose d'inconfortable derrière les pleurs de leur bébé. Et ils se sont aperçus que non, des fois, c'était quelque chose de confortable qu'il voulait exprimer. Il avait vraiment tellement besoin de l'exprimer qu'en fait, ses pleurs, c'est parce qu'il n'arrivait pas à l'exprimer. Mais une fois qu'on avait mis les mots dessus, des fois, c'était pas du tout quelque chose d'inconfortable. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Alors, les phases de la communication, si on rentre maintenant dans la technique, vraiment, les phases de la communication, c'est d'abord, en tant que parent, d'être centré. Donc, centré, c'est ce qu'on a fait très, très brièvement par la respiration, mais chacun peut avoir des façons de se centrer. Se centrer, ça veut dire couper un petit peu avec le trop plein d'informations qui circulent dans notre tête, avec les intentions qu'on pourrait avoir aussi dans la communication. C'est vraiment se retrouver dans une situation vraiment neutre pour accueillir tout ce que l'enfant aura à nous dire. D'accord ? Donc c'est un petit temps de centrage. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase qu'on appelle de demande d'autorisation, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir si nous on a l'autorisation et si on est assez centré pour faire la communication, et ensuite demander à l'enfant s'il nous donne l'autorisation de discuter avec lui, d'entrer en communication. C'est comme si avec un enfant plus grand on lui disait est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute ensemble? Donc on demande l'autorisation à l'enfant. Ensuite, il y a toute la phase de communication, la phase vraiment de la conversation qui est de trouver par des questions oui, non, où est-ce qu'il veut nous emmener. Pour ça, il y a dans le livre notamment des petits protocoles qui sont, par exemple, est-ce que tu as quelque chose à dire ou est-ce que tu as quelque chose à entendre ou est-ce que tu as un autre besoin. Puis on peut aussi poser la question, est-ce que ce que tu as à dire, c'est de l'ordre corporel, émotionnel, relationnel, spirituel ou intellectuel, d'accord? Donc il y a des petits guides quand même pour nous aider. En général, comme c'est une conversation qui se fait du parent à l'enfant, quand on a un enfant qui pleure, on a quand même des petites idées. Par exemple, ça pourrait, est-ce que tu as quelque chose à exprimer sur ta journée? On connaît la journée de notre enfant et on va pouvoir poser des questions. Est-ce que c'était à la crèche? Est-ce que c'était à la maison? Est-ce que c'était, on a quand même aussi des petites idées. Mais toujours, on va rester quand même assez large au départ pour ne pas influencer nous ce qu'on pense, parce que sinon on retombe encore dans la communication où le parent pense savoir pour l'enfant. Alors que là, le but, c'est vraiment de donner la complète liberté à l'enfant d'exprimer ce qu'il a à dire. D'accord? Donc ça, c'est la conversation. Puis à la fin, il y a une petite phase de clôture où on demande à l'enfant, on reformule souvent, voilà, par rapport à tel problème ou à tel inconfort, ce que je comprends, c'est que tu avais besoin d'exprimer ça, etc., etc., etc. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ou est-ce que c'est complètement ce que tu voulais dire? Est-ce que tu as encore un autre besoin ou un autre sujet sur lequel tu voudrais qu'on aille? Ou est-ce qu'on peut clôturer la communication ensemble maintenant? D'accord? Ça, c'est les quatre phases de la communication connectée. Alors, ensuite, quand l'utiliser aussi un petit peu? Souvent, on a tendance à l'utiliser déjà quand il y a un problème avec l'enfant, c'est-à-dire quand il pleure ou quand on voit qu'il y a quelque chose qui coince. D'accord? Donc, ça peut être effectivement utilisé au moment des pleurs de l'enfant. Alors, la communication connectée, c'est vraiment, vraiment recommandé de la faire en présence de l'enfant et à haute voix. Parce qu'en fait, quand on fait ça en présence de l'enfant et à haute voix, quelque part, on lui apprend un niveau de communication qu'il va pouvoir ensuite garder lui quand il va commencer à avoir la parole. Il va en communication connectée, on parle, on va dire, avec la sagesse intérieure de l'enfant. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des mots de bébé. Et du coup, on va enrichir son vocabulaire parce qu'ils sont très, très, très précis, les enfants, en communication connectée. Du coup, au niveau, par exemple, des émotions, au lieu de rester dans juste est-ce que tu as peur ou est-ce que tu es triste, on va avoir tout un panel d'émotions à chercher. Et petit à petit, ça va aussi enrichir le vocabulaire émotionnel de l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est gagné petit et gagné pour plus tard. Donc, il ne faut pas s'en priver. Donc, du coup, de le faire à haute voix à côté de l'enfant, ça c'est positif pour ça. Mais par contre, effectivement, des fois, quand il pleure, quand c'est une crise, c'est compliqué de se centrer suffisamment. C'est surtout compliqué pour ça, hein, parce qu'on a le bébé qui pleure et on a envie de trouver une solution et de faire le calme intérieur pour être bien centré, pour faire une communication connectée, c'est pas toujours facile. Donc, soit on est deux parents à pratiquer la communication connectée, et puis il y en a un qui câline pendant que l'autre fait la communication connectée. Soit des fois, on peut le faire aussi après. Pour dire, bon, ben voilà, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Là, maintenant, ça y est, tu t'es assoupi ou tu t'es calmé. Est-ce que c'est OK pour toi si on revient sur ce qui s'est passé et si j'essaye de comprendre un petit peu ce que tu avais à exprimer? On n'est pas toujours obligé de le faire à chaud au moment où ça se passe. Par contre, quand on arrive à le faire à chaud et qu'on voit qu'après, justement, ça aide à ce qu'il se calme et à ce que la situation puisse se dénuer, et ben, c'est tout gagné. Donc, par exemple, pour un bébé qui pleure, je vais vous lire aussi une petite communication connectée extraite du livre. Alors, c'est toujours ce livre, c'est Hélène et Frédéric qui l'ont écrit avec les premières communications qu'ils ont eues avec leur petit. Donc, ça concerne toujours Hélène, Frédéric et leur bébé. Ce matin-là, Hélène et moi allons tous les deux chercher notre bébé à la crèche pour profiter ensemble d'une belle fin d'après-midi et jouer avec lui au parc. Il semble très fatigué de sa journée et la sortie au parc n'a pas vraiment l'air de lui faire plaisir. Il s'énerve facilement et rien ne lui convient. Ni ramper seul dans l'herbe, ni être porté dans les bras. Quand nous essayons de l'installer dans sa poussette, c'est un refus catégorique qui s'accompagne d'une crise de larmes véhémente. Nous comprenons qu'il est temps de prendre une bonne respiration et d'entamer une conversation connectée. Je me lance et parmi les suggestions que je propose, notre fils retient... Je suis très fatiguée et je ressens une émotion inconfortable. Nous accueillons cette première partie du message et Hélène a l'impression de déceler de l'inquiétude chez lui. Je demande à notre bébé s'il se sent inquiet. Oui, nous confirme-t-il. Reste encore à savoir ce qui l'inquiète. Nous proposons plusieurs pistes et il retient « Je suis inquiet du départ de maman ». Nous creusons encore « J'ai peur qu'elle ne rentre pas et j'ai besoin de le dire ». Pour être sûr de bien comprendre ce que notre enfant nous dit, je reformule ce que nous avons compris jusque-là. Tu as peur que maman parte et qu'elle ne revienne pas ? Oui. Nous aurions été bien incapables de deviner l'origine de ses pleurs, mais maintenant il est facile pour Hélène de lui répondre. Ok, je comprends ta peur. C'est vrai que je ne t'ai pas encore parlé de mon départ, tu as raison. Demain matin, je partirai 2 jours à Paris pour passer du temps avec mon papa à moi, avec qui j'ai envie d'entamer une belle discussion. Cela me fera du bien aussi, un peu de temps rien que pour moi. Peut-être que cela sera agréable pour toi aussi de passer du bon temps juste avec ton papa. Il m'a d'ailleurs dit qu'il se réjouit d'être seul avec toi pendant ces 2 jours. Je pars demain matin et je t'accompagnerai à la crèche avant de prendre le train. Je rentrerai vendredi et on pourra fêter nos retrouvailles. À la fin de cette explication, nous demandons à notre fils comment il se sent. Il est toujours fatigué, mais il n'est plus inquiet. Il a entendu ce dont il avait besoin et tout est clair pour lui. Entre-temps, il est redevenu paisible et maintenant, c'est lui qui demande à être déposé dans la poussette. Incroyable, nous commençons alors une belle promenade. Tout est calme et les arbres sont magnifiques. Voilà, dans cet exemple, ce qui est important, c'est que le bébé était énervé et les parents pensaient que c'était la fatigue de la journée à la crèche. Et ils seraient restés là-dessus, sur la fatigue de la journée à la crèche, sans pouvoir donner la parole au bébé à ce moment-là. Ils n'auraient jamais deviné que c'était le départ de la maman, puisqu'elle n'avait pas encore discuté de ça. Mais vous savez quand même qu'on est relié par un tas de choses et que les bébés, ils sentent des fois des choses qu'on leur a pas dit parce que ça c'est en train de se préparer et ils ont déjà ce ressenti et ils sentent déjà qu'il y a ça qui va se passer. D'accord ? Et du coup, lui, il avait besoin justement de l'entendre bien clairement. C'était le moment de le lui dire. Et sûrement que la maman, le voyant énervé, aurait jamais pensé, je vais en plus rajouter à la fatigue de la crèche l'explication de mon départ. Elle aurait encore repoussé, et ce qui aurait envenimé toute la soirée. Donc voilà des petits exemples qui permettent vraiment de voir à quel point ça peut changer la vie de manière très très simple. Hein. Une communication connectée, c'est quelque chose à utiliser de manière quotidienne, et en général les communications, elles durent 2-3 minutes. Il y a quelques communications qui sont des fois plus longues quand on a vraiment des choses importantes à dénouer, mais très souvent, une fois qu'on est à l'aise dans les questions, parce que finalement c'est ça le plus compliqué, c'est pas tellement attraper la technique du oui-non avec les baguettes ou avec le test musculaire, ça c'est juste une question d'entraînement, mais après c'est être à l'aise pour trouver ce petit chemin là, avec ce petit chapeau d'explorateur quand même. Aime bien dire Hélène ou Frédéric, de placer notre petit chapeau d'explorateur et de trouver le chemin qui nous mène à vraiment, dans l'ouverture des possibles, à comprendre ce que l'enfant a à dire. Mais une fois qu'on est habitué, qu'on a pris cette façon de faire de manière facile, ça va très 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 vite. Donc je disais que c'était éventuellement pour quand il y avait des pleurs ou en période de crise, mais ça peut être aussi pour comprendre quand quelque chose coince, ou tout simplement pour avoir une idée des préférences de l'enfant, sans pour autant donner en faire un enfant roi où on va lui demander à chaque fois ce qu'il veut, mais quelquefois une après-midi on peut soit rester à la maison, soit aller jouer dehors, soit rendre visite aux grands-parents, et on sait pas trop, nous en tant qu'adultes, si l'enfant était plus grand on pourrait lui poser la question. Là on peut aussi, avec la communication connectée, éventuellement lui demander qu'est-ce qui serait le plus agréable pour lui, et du coup faire que l'après-midi se passe bien pour tout le monde. Ça peut être aussi pour faire le point de la journée, une petite conversation le soir en disant, est-ce que tu aurais des choses à dire sur la journée. C'est vraiment offrir un espace de parole, donc comme on offre un espace de parole à un plus grand, exactement de la même manière. Et ça peut être aussi pour vérifier qu'un message est bien passé. Par exemple, c'est la première fois qu'il va dormir chez les grands-parents, on lui explique bien comment ça va se passer, et puis on a besoin de vérifier, est-ce que tu as bien compris ou est-ce que tu as besoin qu'on en reparle. Et du coup ça évite aussi des fois qu'on soit obligé de répéter, parce que nous on a besoin d'être assuré qu'il ait bien compris, et des fois on va avoir tendance à répéter, est-ce que tu as bien compris, ça va se passer comme ça, et tu vas dormir 2 jours, 2 dodo, etc. Des fois on en rajoute un peu, alors qu'avec la communication connectée on peut tout simplement vérifier en disant, voilà, par rapport à ce que je t'ai expliqué, est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que tu as encore des inquiétudes, est-ce que tu voudrais qu'on recreuse sur un sujet, ou est-ce que c'est ok. Voilà, donc la communication connectée, ça a été vraiment découvert par Hélène et Frédéric pour communiquer avec leur bébé. Et pour eux, c'est vraiment important que ça soit les parents qui communiquent avec leur propre bébé. Ça, c'est très, très important. Donc du coup, eux, ils ont pas du tout envie que ça soit utilisé dans un cadre professionnel, parce que dans un cadre professionnel, c'est autre chose. C'est par exemple de la kinésiologie ou de la parole au bébé. Eux, ils ont vraiment envie que ça reste dans le cadre familial, et c'est pour ça que ça a été créé. Donc ils encouragent les parents en fait à apprendre et à utiliser cet outil. Et par contre, les gens qui ont appris à l'utiliser se sont aperçus qu'on pouvait aussi communiquer, pas uniquement avec des bébés, déjà avec des enfants un peu plus grands qui n'ont pas encore complètement la parole, des fois ça les aide. Et puis même les enfants qui ont commencé à utiliser la communication connectée, quand ils deviennent plus grands, des fois demandent eux-mêmes à leurs parents par rapport à une problématique ou par rapport à quelque chose, là j'aimerais bien qu'on fasse une coco ensemble. Parce que des fois, même nous adultes, on est coincés dans des situations, on ne sait pas très bien pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a du mal à savoir quelle est vraiment l'émotion que je suis en train de ressentir à ce moment-là. Et donc du coup, bien sûr, les enfants, ils mettent du temps à pouvoir vraiment mettre des mots clairs sur ce qu'ils ressentent, et ça peut les aider. Et il y a des gens qui ont aussi qui utilisent aussi la communication connectée avec toutes les personnes qui n'ont pas complètement le langage, c'est-à-dire avec des enfants qui sont par exemple handicapés ou des personnes âgées ou des gens qui sont dans le coma. Pour toutes les personnes qui n'ont pas le langage, c'est rentrer vraiment avec la part profonde d'elles-mêmes et pouvoir avoir des informations sur ce qu'elles ressentent vraiment, plutôt que de poser nous. Ce qu'on pense qu'elles peuvent ressentir ou qu'elles sont susceptibles de ressentir. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour sur les grandes choses que j'avais à vous dire. Alors, comment apprendre la communication connectée ? Ben déjà avec le livre, puisque le livre est très fourni d'explications très concrètes. Ensuite, Hélène et Frédéric ont mis en place des ateliers et des formations de groupe. Donc, il y a des formateurs qui organisent des formations de groupe sur en général 2 journées complètes pour apprendre la communication connectée. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Ton cœur me parle et j'ai appris à l'écouter ». Dans ce livre-là, c'est un recueil de communication, de témoignages de parents. Et dans ce livre-là, effectivement, il y a des communications connectées aussi avec des enfants handicapés, avec d'autres situations qu'avec des bébés. Donc ça, c'est un deuxième livre. Là, dans ce livre-là, c'est uniquement des témoignages et des situations concrètes de communication connectée. Et ensuite, il y a un site internet qui s'appelle tout simplement www.communicationconnectée.com, sur lequel il y a plein de petites vidéos, de tutos qui expliquent comment faire les baguettes, qui expliquent comment utiliser les baguettes, qui donnent plein de choses sur la communication connectée. Et ensuite, il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Communication connectée, échange entre parents. Et sur ce groupe Facebook, toutes les personnes qui demandent à rentrer peuvent rentrer. C'est très, très, très ouvert. Et c'est uniquement c'est un groupe d'échange où les parents vont dire, ben, tiens, voilà, j'ai entendu parler de la communication connectée, je suis en train de me renseigner, qu'est-ce que vous me conseillez? Ou, ben, voilà, moi, j'ai essayé de faire mes baguettes comme ça, j'ai un peu du mal, est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont eu ce genre d'informations? Donc, dans ce groupe-là, c'est beaucoup d'échanges entre parents et aussi le groupe des formateurs de la communication connectée interviennent de temps en temps pour donner aussi des indications. Et c'est vraiment un groupe très ouvert. Il suffit que vous demandiez à être même juste pour sans expérience, même en disant juste, ben voilà, j'ai entendu parler, et puis j'ai envie d'un petit peu creuser le sujet. C'est très très ouvert. Tout le monde est accueilli les bras ouverts. Je vois des petits oui dans la salle. Les bras ouverts sur ce groupe. Et il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Communication connectée. J'ai tant de choses à dire. Donc voilà, il y a pas mal de façon de se renseigner, de façon de creuser le sujet. Et ça peut être fait vraiment en autodidacte ou ça peut se faire dans une formation de groupe. La richesse des formations de groupe, c'est qu'en fait, on échange beaucoup, on pratique beaucoup et pour certaines personnes, c'est bien d'avoir ce temps de pause de 2 jours où vraiment on creuse le sujet pour se sentir armé pour l'utiliser. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour rapidement de tout ce que je pouvais vous présenter dessus. Si vous avez des questions, si vous avez envie de creuser certaines parties, je suis toute ouverte à répondre.
Oui, au début, vous avez parlé que vous pouvez poser des questions si tu veux parler de ton inconfort, de quelque chose de spirituel. Comment un bébé peut dire quelque chose de spirituel ?
Alors, en fait, là, ce qui est important, c'est de voir que ben il y a un peu de monde dans ce petit bébé. C'est-à-dire que le petit bébé, il est là à complètement découvrir tout ce qui lui arrive au niveau de sa toute nouvelle vie, mais en même temps, il a déjà, on va dire. Il est déjà une personne entière ou une âme complète et des fois ils vont se poser des questions auxquelles on s'attend pas spécialement qui peuvent des fois être justement par exemple du spirituel du style des questions sur la vie et la mort ou pourquoi mamie est plus là ou des choses comme ça qui dépasse en fait ce petit être qu'on voit et qu'on a l'impression tout nouveau. Ils ont déjà une grande richesse intérieure de réflexion. Donc, voilà. Est-ce que ça répond ?
Une petite question pour les tout petits bébés. Parce que tout petits, je pense qu'avant, arrière, ils ne font pas. Du coup, c'est quoi les techniques qui sont utilisées sur des tout-petits ?
Ce que je montrais avant-hier, c'est le parent qui le fait. C'est toujours le parent qui va faire qui va utiliser l'outil. Donc, c'est le corps du parent qui va... Est-ce que quelqu'un veut bien venir tenir le micro ? Je vais faire une petite démonstration avec les baguettes. Et voilà, juste pour que je puisse continuer... Alors, si je vous montre, je vais vous montrer un début de communication, mais qui va pas être complètement réel, d'accord ? Mais alors voilà, avec les baguettes, donc moi, la première chose, je vous ai dit, hein, au niveau du protocole, c'est d'abord de se centrer, de faire un petit peu le vide dans sa tête. Au début, on a besoin des fois de peut-être prendre 5 minutes pour être bien posé, puis après, on arrive à le faire très très vite, à se placer juste d'être bien clair et bien posé, d'accord ? Et donc, par exemple, avec mes baguettes, je vais commencer par poser la question aux baguettes, montre-moi un oui. Donc, je vous le fais, juste, voilà, montre-moi un oui et regardez les baguettes. Voilà, donc vous avez vu, les baguettes se sont écartées, ça va être un oui pour moi, ok ? Et puis, je vais dire aux baguettes, maintenant, montre-moi un non. Et ça va être le non. Moi, je fais rien, je tiens juste les baguettes comme ça dans mes mains, mais je fais vraiment rien. Je vous remonte, montre-moi un oui. Ok, et montre-moi un nom. Ok, puis je vais pouvoir vérifier, par exemple, je m'appelle Nathalie. Donc si je dis par exemple, je m'appelle Nathalie, et juste je bouge pas mes mains, hein, c'est les baguettes qui bougent. Et puis je vais pouvoir dire par exemple, je m'appelle Dominique. Ok, je vais pouvoir faire comme ça au début, juste pour bien vérifier si je suis bien centrée et si mes réponses sont toujours très nettes. Ok, donc là on a le oui et le non avec les baguettes. Est-ce que je suis assez centrée pour faire une communication connectée? Ok, ça veut dire que là, pour moi, c'est ok de faire une communication connectée. Et puis, donc là, ça va devenir un peu fictif, à moins que... Est-ce que je peux utiliser votre prénom ? Ok, est-ce que je peux faire une communication ? Je vais faire une petite communication connectée juste de démarrage, hein, avec Audrey. Donc, imaginons que Audrey n'ait pas la parole ou que Audrey soit mon enfant, hein, c'est surtout ça. Donc, je vais dire, ok, est-ce que moi, je suis assez centrée pour faire une communication avec Audrey ? Ok. Est-ce que j'ai mon autorisation à moi pour faire une communication avec Audrey ? Ok, ça c'est toujours sur moi, vous voyez qu'à chaque fois les baguettes, elles s'écartent pour dire un oui. Alors comme ça fait plusieurs fois que j'ai un oui, je vais pouvoir dire aussi, est-ce qu'il y a des raisons d'en douter ? Voilà, pour être sûr que c'est pas mes baguettes qui vont faire que des oui, je vérifie aussi à chaque fois que mes baguettes ont bien toujours le code oui-non, d'accord ? Que je sois bien toujours assez centrée. Puis je vais dire maintenant, ok Audrey, montre-moi un oui. Et là, vous voyez que le oui pour Audrey avec mes baguettes n'est pas le même que mon oui, d'accord ? Ça, c'est les baguettes, on fait ce signe-là pour donner le oui d'Audrey. Si je dis Audrey, montre-moi un non. Ok. Donc là, en plus, c'est intéressant avec les baguettes parce que moi, mon oui, vous avez vu, les baguettes s'écartent et mon non, les baguettes se resserrent. Alors que pour Audrey, les baguettes vont à droite pour le oui et vont à gauche pour le non. Donc du coup, en plus, je vais pouvoir avoir une indication pendant ma communication connectée de savoir est-ce que je suis toujours sur Audrey ou est-ce que je suis revenue sur moi. D'accord ? Donc là, maintenant, si j'ai dit à Audrey, montre-moi un oui, montre-moi un non, je vais dire Audrey, est-ce que c'est ok pour toi qu'on fasse une communication connectée ensemble ? Et là, on a un oui. D'accord ? On pourrait avoir un non dans ce cas-là, hein, mais voilà. Mais là, on a un oui. Et puis, je vais m'arrêter là. Et du coup, ben, j'ai le oui et le non d'Audrey, et je vais pouvoir dire, ok, Audrey, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire, ou est-ce que tu aurais quelque chose à entendre, ou est-ce que tu aurais un autre besoin, et la communication aurait commencé. D'accord ? C'est pareil avec le balancement. C'est-à-dire, je vais dire mon oui et mon non. D'abord, c'est mon oui et mon non. Je vérifie bien. Puis après, je vais dire à mon enfant, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse une communication connectée ensemble, mais c'est sur moi que j'ai le code. Donc, je peux très bien le faire avec un très tout petit bébé. Il y a même des personnes qui le font avec un bébé en devenir, des mamans enceintes qui parlent déjà avec leur bébé qui arrive. Est-ce que ça répond ? Ça va ? Super.
Bonjour. Bonjour.
Là-dessous.
J'apprécie en fait votre approche de communication connectée. Car j'ai découvert en fait cette façon de fonctionner à travers la parole au bébé d'une Québécoise, Brigitte Denis, qui elle intervient plus en tant que professionnelle. Et je trouve ça intéressant parce que moi-même, je le pratique un petit peu Et je trouve que c'est bien, en fait, de mettre les parents dans les situations quotidiennes, acteurs et en relation avec leur enfant. Et ce que je voulais aussi aborder, c'est par rapport justement au fait de communiquer avec les femmes qui sont enceintes. Et là, on arrive vraiment aussi à avoir des communications qui sont auxquelles on n'imagine pas en fait l'issue au début. Je me souviens de périodes où il y avait une femme qui était qui avait eu en fait des grossesses interrompues et elle était sous le choc. Et en fait, ils ont vraiment communiqué avec le bébé. Et là aussi, on voit à quel point ça peut être ouvert spirituellement, plus que nous, des fois. Et voilà, c'était juste pour témoigner de ça.
Oui, effectivement, ils nous apprennent beaucoup, ces petits bouts de choux. Oui. Et par rapport à parole au bébé, parole et bébé, c'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Et quelquefois, dans certaines situations, on a vraiment besoin de l'aide d'un thérapeute. Et dans ce cas-là, la communication connectée va pas suffire non plus. Parce que, par exemple, si le bébé ne s'alimente pas, pour quelque chose de vraiment très profond et que il a vraiment besoin que quelquefois les bébés ils vont pas le dire aux parents parce qu'ils sentent que les parents sont pas prêts parce que des fois c'est quelque chose de vraiment important ou peut-être même que les parents ont pas la connaissance pour comprendre ce qui se passe pour le bébé et à ce moment-là quand le symptôme perdure ou qu'on n'arrive pas au niveau communication connectée eh ben il faut aller voir un thérapeute mais comme avec un plus grand on aurait besoin à un moment donné d'aller peut-être se faire aider par un thérapeute aussi pour dénouer une situation qu'on n'arrive pas à dénouer par la parole. Donc c'est vraiment très complémentaire. La parole au bébé, c'est avec un thérapeute pour aller aussi donner la parole au bébé. Et la communication connectée, c'est pour la communication quotidienne dans les familles. Merci.
Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que les personnes qui ont créé la méthode voulaient justement que ce soit dans un cercle fermé. Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute, entre parents et enfants. Moi, je suis assistante maternelle et ça m'intéressait par rapport à ce biais-là. Donc, ma question, c'est pourquoi ils ont ce souhait-là de garder ça entre parents et enfants ? Parce que je pense que dans le cadre de mon métier, ça pourrait être aussi quelque chose de très positif.
Oui, alors c'est quelque chose qui est très très souvent posé. La seule chose, c'est que les bébés, ils vont nous confier des choses sans retenue. Et si on fait une communication connectée avec un bébé qui n'est pas notre enfant, s'il nous confie quelque chose de peut-être d'un peu intense, d'un peu lourd, comment on va aller après donner l'information aux parents en disant bah voilà, j'ai fait une communication connectée avec votre enfant et il est en train de me dire que s'il pleure la nuit, c'est parce que ça devient très délicat parce qu'une fois que le bébé nous a confié quelque chose, voilà. Donc c'est une des limites déjà ça. Donc par contre, bah c'est très intéressant que tous les gens qui travaillent avec la petite enfance soient formés si possible, en tout cas très au courant de la communication connectée pour justement en parler autour d'eux, mais ça reste vraiment ça la limite, c'est-à-dire qu'en fait soit les parents sont au courant, pratiquent la communication connectée et on dit c'est ok pour moi s'il y a besoin de faire une communication connectée avec mon enfant, mais sinon on déconseille fortement de faire des communications connectées avec des enfants qui sont pas les nôtres, même quand par exemple si vous avez à la maison le bébé d'une copine qui la copine n'aurait peut-être pas envie que vous rentriez en communication avec son bébé et d'aller que le bébé vous confie des choses de sa vie intime avec ses parents et après on serait bien embêté de pouvoir retranscrire ça aux parents.
Je comprends ce que vous voulez dire. En même temps, on peut rester dans un cadre. Pardon, j'ai la voix chevrotante.
J'entends pas très bien. Peut-être poser le micro un petit peu en dessous.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, je comprends. Vous m'entendez ? Est-ce que quelqu'un peut traduire sinon ? Tout près comme ça ? D'accord. Donc voilà, je comprends ce que vous dites par rapport à jusqu'où peut aller la conversation, si on peut dire. Maintenant, moi, je pense je peux me tromper, qu'on peut rester dans le cadre. De là maintenant tout de suite pourquoi ? Parce que les réponses de l'enfant elles sont en fonction de ce que va poser, enfin si je vois que la conversation part vers des questions parents, je dis bah là moi je rentre pas là-dedans. Voilà, juste avoir des réponses sur là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire moi? Et si ça va au-delà, ben de pas aller au-delà. Enfin,
oui, ça pourrait être dans ce cas-là, au départ de la communication, dire ok, est-ce que ce que tu as à dire, ça concerne réellement là ton problème au niveau de la crèche, enfin ou au niveau de maintenant, voilà. Mais juste dans le cadre éthique de la communication connectée, il y a vraiment le cadre que les parents soient au courant,
bien sûr,
qu'il y a cette utilisation, quoi.
Ok, ouais. Merci.
Oui, je découvre cette méthode là maintenant et je me pose la question de avant et ceux qui le font pas, comment ils font? Parce que ça voudrait dire que la communication en général n'est pas connectée. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors
j'ai l'impression que tout d'un coup on va se connecter avec l'enfant et qu'avant comment on communiquait? Parce que enfin je sais pas.
Oui, bien sûr. Ben après, les parents sont très connectés avec leurs enfants et ils ressentent beaucoup sans avoir besoin de creuser la communication pour plein de choses. Mais il y a quand même des moments où on s'est tous retrouvés avec un bébé qui pleurait dans nos bras sans arriver à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire et où à ce moment-là la parole nous a manqué. Donc c'est pas pour tout ce qui se passe. Si les parents sont très connectés avec l'enfant, s'il y a beaucoup d'intuition et s'il n'y a pas de situation qui paraisse inexpliquée, c'est ok. Mais il y a bien des moments où la connexion qu'on a avec notre enfant, il nous manque quelque chose quand même. Et souvent, on va mettre nous des mots en pensant que l'enfant ressent ça ou ça, sans être vraiment sûr, quoi. Ça répond ou vous voulez parce que je vois que vous avez plus le micro, donc du coup est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou est-ce que ça va? Quand est-ce qu'on utilisait? J'entends pas jusque là-bas.
Voilà,
on en a parlé. Hein. Voilà. Quand, par exemple, on est face à un enfant pour lequel on comprend pas, et puis après, une fois que on a cette technique, ben pour un petit peu dire, par exemple, tiens, est-ce que tu auras envie de dire quelque chose sur ta journée? Des fois, on est surpris aussi. Il y a des choses, il y a des exemples dans le livre là justement où Frédéric raconte que un soir, Hélène partait au restaurant avec une amie et puis son bébé se met à pleurer à ce moment-là. Donc c'est encore une situation quand même où il pleure, mais et lui, il était persuadé qu'il pleurait parce que sa maman était partie au restaurant avec son amie. Donc il a essayé de lui expliquer, maman va revenir. Il a mis en place tout un tas de petits rituels. Ils ont envoyé des bisous en l'air à maman, etc. Puis le petit continue à pleurer et s'est dit bon allez ok, je vais faire une communication connectée pour voir si il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et en fait ce que le bébé voulait exprimer, c'est que l'après-midi même ils avaient fait des jeux un peu plus physiques et sportifs, lui et son papa, parce qu'il grandissait un peu, et il avait vraiment beaucoup aimé faire ces jeux et il voulait savoir si son papa avait partagé le même plaisir. Donc en fait il lui dit bah oui c'est vrai, moi j'ai vraiment aimé aussi, maintenant t'as grandi, on peut faire un petit peu des trucs un petit peu plus de petits garçons à papa, et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et hop, la soirée s'est terminée sans qu'il y ait plus de pleurs à partir du moment où il avait mis ces mots-là, alors que lui, il avait pensé, comme ses pleurs ont commencé au moment où la maman est partie, qu'il pleurait parce que la maman lui manquait. Donc voilà, on a beau être connecté, avoir de l'intuition et tout ça, il y a quelques fois où quand même on n'est pas exactement sur ce qui se dit.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je voulais simplement revenir sur la question.
Le micro, il faut le poser en fait sur le menton. Voilà. Il faut qu'il soit sous le voilà.
Je voulais revenir sur la question que vous aviez posée tout à l'heure sur vous m'entendez là, c'est bon?
Oui, là j'entends. Oui.
Sur l'utilisation professionnelle ou pas. Mm-hmm. En fait, je pense qu'il y a des professions qui l'utilisent déjà depuis pas mal de temps. Enfin, je suis ostéopathe et en fait je fais de la communication connectée depuis très longtemps, enfin sans savoir que c'était de la communication connectée, enfin on appelle ça autrement. Et je voulais simplement dire que en fait les enfants ou enfin qui que ce soit, hein, enfin les enfants, les adultes, les personnes qui peuvent pas parler, peu importe, mais choisissent tout de même l'information qu'ils vont donner en fonction de leur interlocuteur et ce qu'ils vont dire à une assistante maternelle, à leurs parents ou un thérapeute sera toujours pertinent par rapport à ce que la personne qui est en face d'eux est à même d'entendre, enfin est dans la capacité d'entendre ou pas.
Oui, en fait, des thérapeutes utilisent la communication connectée pour compléter leur travail, il n'y a aucun problème là-dessus, mais parce qu'ils sont déjà thérapeutes et qu'en fonction de ce qui va être confié par l'enfant, ils ont déjà un bagage qui leur permet d'accompagner les parents. Des parents qui communiquent avec leur propre enfant s'installent, on va dire, professionnels de la communication connectée, ça c'est compliqué parce que il faut avoir déjà un petit bagage d'accompagnant comme thérapeute et pas juste d'être parent d'un enfant. Donc il y avait déjà ce côté-là sur lequel Hélène et Frédéric mettent bien en garde dans le fait d'utiliser la communication connectée en séance thérapeutique. Et ensuite, ce qui est vraiment important pour eux, c'est vraiment que les parents s'approprient l'outil et deviennent autonomes dans leur communication avec leurs enfants. Et moi, je suis kinésiologue, je suis formée à la parole au bébé, et du coup, j'utilise aussi ces techniques-là dans mes séances thérapeutiques. Mais la communication connectée, je l'enseigne aux parents de manière à ce que ce soit quelque chose d'autonome pour eux, et que quand leur enfant va pas bien, ils soient pas toujours obligés de venir en consultation thérapeutique, mais qu'ils aient un outil pour eux et que ce soit eux qui puissent communiquer dans leur famille. Mais est-ce que ça répond ou pas tout à fait ?
Oui, j'avais pas véritablement de question. Enfin, je voulais simplement apporter une précision.
D'accord.
Donc ça répond à ma question.
Oui, alors moi, en fait, je me demandais comment ça peut se mettre en pratique lorsque finalement l'enfant, il est en crise. Il n'est pas disponible en fait pour être à l'écoute de ce qu'on lui demande. Mm-hmm. Les baguettes vont répondre quand même si lui il est dans sa phase non disponible. Enfin, comment ça se passe du coup ?
Oui, en fait, le problème pendant que l'enfant est en crise, c'est pas l'enfant qui est en crise, c'est que nous, si l'enfant est en crise, on a du mal à se centrer. Donc là, à ce moment-là, on peut effectivement ne pas obtenir de réponse ou que ça aille pas et que ça soit pas le moment. Si nous, on arrive à se centrer, par exemple, parce que l'enfant est en crise avec quelqu'un d'autre ou parce que on a réussi à le poser quand même et à prendre les baguettes et à être assez centré, en général, il n'y a pas de problème pour que ça soit que la communication au moment de la crise, l'enfant exprime ce qu'il D'accord. est, pourquoi il est en crise.
Ok. Ça m'étonne, mais du coup, c'est très intéressant.
C'est ce qui a permis à Hélène et Frédéric de s'apercevoir qu'en temps de crise, de mettre des mots sur la crise, et hop, leur enfant s'arrêtait de pleurer. Et c'est quand même ça qui les a émerveillés au début et qui leur a donné envie de creuser ça. C'est vraiment de voir, parce que quand tout va bien et que c'est une conversation sur la fin de la journée ou comment ça s'est passé ta journée, etc., on voit pas toujours des changements très tangibles dans le comportement de l'enfant, alors que quand c'est le moment de la crise, qu'on fait une communication connectée, qu'on met des mots dessus et que l'enfant se calme, là ça paraît comprend que quelque chose de réellement s'est passé.
Et le livre dont vous parlez, il se trouve sur le salon ou pas ?
Non, je suis désolée, il faut le commander.
Ok, merci.
Moi, j'ai une question très pratique. Moi, j'imagine mon fils de 16 mois, si je me présente avec des baguettes, je suis sûre qu'il va vouloir jouer avec. Ça se passe comment concrètement ?
Alors concrètement, à chaque fois qu'on présente quelque chose de nouveau, il y a une partie d'exploration. Moi, avant d'être kinésiologue, j'étais institutrice. Et quand on présente une trousse pleine de crayons à des enfants de CP, il faut accepter que pendant 15 jours, on n'ait rien d'autre que des trousses qui tombent et des crayons partout. Et puis après, ça devient quelque chose de OK. Donc pour les baguettes, c'est pareil. Peut-être que au début, il faut s'arranger pour que l'enfant soit pas, enfin voilà, de que l'enfant soit en train de jouer quand on prend les baguettes, accepter qu'au milieu de la conversation, il a envie de venir prendre les baguettes. Puis une fois que c'est quelque chose qui fait partie de la maison, il n'y a plus de problème.
Merci.
Bonjour. Moi, j'avais un petit peu la même question, mais ma fille a 18 mois. Mm-hmm. Je pratique avec elle la langue des signes mm-hmm. depuis un moment maintenant. Ça fonctionne bien. Et je me demandais si je pouvais introduire maintenant la communication connectée et si, du coup, introduire plusieurs choses, ça va être bien ou pas?
Alors, très, très souvent, les parents utilisent les deux choses. Il n'y a pas de problème du tout. Est-ce que des fois, avec la langue des signes, il y a aussi des situations où on n'arrive pas à dénouer, par exemple, et on aurait besoin de mettre des mots plus précis que les signes qui sont quand même limités dans la langue des signes, quoi. On peut pas aller vraiment exprimer un grand panel d'émotions ou des choses comme ça. Donc, c'est très compatible, c'est très complémentaire.
Et du coup, le fait de l'introduire maintenant, qu'elle est un peu grande, ça dérange pas?
Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. On peut l'introduire vraiment quand on veut. Il y a aussi une chose qui est importante avec la communication connectée, c'est que c'est bien de le tester sur soi-même au départ. Ça veut dire un petit peu aller communiquer avec sa propre sagesse. C'est juste pour s'entraîner et pour du coup avoir... juste pour s'entraîner. Après, on peut l'utiliser aussi si c'est quelque chose qu'on aime et avec lequel on est à l'aise. Mais par exemple, dire, tiens, par rapport à cette situation-là, j'étais pas trop à l'aise. Quelle est réellement l'émotion que j'ai ressentie? Et puis de laisser explorer et de voir où les baguettes vont nous donner un oui ou un non. Et c'est la partie qui s'appelle communiquer avec sa propre sagesse, en fait. Et des fois, c'est intéressant de se dire, ah oui, tiens, il y a cette émotion qui sort. Elle me serait pas venue à l'esprit, mais vraiment, ça colle complètement à ce que j'ai vécu dans l'après-midi, par exemple. Et du coup, il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut commencer maintenant aussi à aller creuser... ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous.
Juste une petite question technique. Le oui et le non pour vous, c'est toujours la même chose ou ça change d'un jour à l'autre?
Alors,
et pour le bébé, pareil.
Alors,
s'il faut à chaque fois demander oui, non?
Alors, ça peut changer.
D'accord.
Ça peut changer. Pour moi, mon oui et mon non, en général, est assez stable, mais ça peut changer.
D'accord.
En général, c'est quand même assez stable. Et au niveau du test musculaire, c'est toujours la même chose, parce qu'un oui pour le au niveau du test musculaire, c'est tester la tonicité du muscle, en fait. Et quand tout est bon pour nous, quand tout est ok, on a ce qu'on appelle des muscles toniques, une tonicité qui nous permet de rester debout ou de rester assis sans s'effondrer. Et quand il y a du stress à l'intérieur de nous, en fait, on a une baisse de tonicité musculaire. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand on a une mauvaise nouvelle à leur annoncer, est-ce que t'es bien assis? Parce qu'un gros stress peut carrément entraîner les jambes qui flageolent. Moi, j'aime bien donner l'exemple, ce qui m'est déjà arrivé. Je suis en voiture, puis il y a un animal qui traverse devant ma voiture. Je vais piler. L'animal continue son chemin, tout va bien. Mais moi, juste après, j'ai vraiment les jambes complètement molles. Donc, le stress entraîne une perte de tonus musculaire. Et c'est là-dessus que s'appuie le test musculaire. C'est-à-dire que un oui, c'est quelque chose de positif, et un non, c'est un petit stress qu'on introduit dans le corps, et donc on va avoir une réponse de notre muscle qui va être différente. Mais du coup, on aura toujours, et pour nous et pour les réponses de l'enfant, le oui qui est le test tonique et le non qui est le test qui s'affaisse. Donc le test musculaire, on peut le faire de plusieurs façons. Il y a soit le fait de faire un petit rond comme ça, bien stable dans ses doigts, et puis d'introduire avec l'autre main, un doigt de l'autre main, et d'essayer d'ouvrir ce rond. Et quand tout va bien et que on pense à quelque chose de positif, en général, on a une bonne tonicité des muscles, donc on n'arrive pas à passer à travers. Et si on pense à une situation négative, un peu le petit jeu que je vous ai fait faire tout à l'heure avec le balancement, quand on va penser à une situation négative, on va réussir à passer à travers, et donc les muscles vont lâcher. Donc ça, c'est aussi un oui-non qu'on peut utiliser, au même titre que les baguettes, au même titre que le petit balancement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a celui-là, il y a aussi certaines personnes qui arrivent à tester avec une seule main la résistance de leurs doigts. Donc quand tout va bien et qu'on n'est pas en stress, on a une bonne résistance de notre doigt. Donc là, c'est le majeur qui teste l'index. Et quand, par contre, je vais penser à quelque chose de négatif ou je vais dire un non, hop, je vais sentir que mon doigt résiste moins. Mais là, par contre, on aura toujours la même réponse, parce que ça, c'est une réponse musculaire, c'est pas quelque chose qui change. Par contre, avec les baguettes, on a des réponses différentes.
Oui, bonjour. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait trouver des formations sur la région lyonnaise.
Alors, la technique, elle est assez récente puisqu'elle date de 2012 et Frédéric et Hélène, qui vivent maintenant aux États-Unis, ont vécu longtemps en Belgique. Donc, il y a beaucoup de formateurs dans la région de la Belgique et dans le nord de la France. Dans le sud de la France, il y a une formatrice, Fanny Sarr, qui est sur Bordeaux. Et dans notre région-là, il y a juste moi pour l'instant. Et j'habite à Seine-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, j'ai pas de formation sur Lyon pour l'instant prévue. Je vous ai laissé au fond de la salle un petit flyer avec les différentes dates de formation qui sont pour l'instant prévues. Et voilà, vous verrez que je me déplace quand même pas mal et que pour l'instant, il n'y a rien sur Lyon. Mais si il y a quelque chose qui a envie de se former, un groupe qui se forme, ça peut être envisageable. Pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas.
Merci.
C'était juste par rapport à la formation, si c'était une formation à destination des parents ou des parents avec leurs enfants, du coup.
Alors, pour la formation, il n'y a pas besoin que le bébé soit là. Par contre, si on a un très jeune bébé qu'on ne peut pas laisser, les bébés sont les bienvenus. Il faut juste que dans ce cas, les parents, par rapport aux autres parents qui sont présents, gèrent leur bébé de manière à ne pas gêner le groupe. Mais les bébés sont pas, ils sont les bienvenus, mais ils ne sont pas utiles dans la formation. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de communiquer avec vous. Et puis, n'hésitez pas, si besoin, il y a sur les petits flyers, il y a mon mail. Si vous avez des questions dans les jours à venir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, merci bien.